Comme mentionné plus tôt au début de l'émission, je reçois aujourd'hui Jérémy Forlat, qui est biologiste à environnement et lutte contre les changements climatiques, faune et parcs, mais biologiste avec une twist supplémentaire, Jérémy. Ton poste exact, là, tu es biologiste de formation, mais tu as des responsabilités à quel niveau, là?
Au niveau de la réserve de biodiversité d'Anticosti. Donc, je travaille à la direction de la gestion des aires protégées. Donc, sur Anticosti, on a la chance d'avoir une multitude d'aires protégées de types différents, des réserves écologiques, des réserves de biodiversité. On a un parc national également. Donc, moi, je vais m'occuper plus précisément de la réserve de biodiversité.
Bon, là, on est bien fixé. Les gens qui nous écoutent depuis le village, à la radio traditionnelle, ont une très bonne connaissance de cet amalgame de sources de fierté, je dirais, Alil. Les gens qui nous écoutent et qui sont nombreux, nombreuses par le web, ont peut-être un peu plus de difficulté à faire la différence. Quelle est la différence entre, par exemple, le parc national, la CEPAC, et une aire protégée, puisque ce que vient faire aussi la Société du patrimoine? C'est large, ma question, mais il y a des écarts dans la compréhension des gens, peut-être.
Oui, tout à fait. Si on s'en va à l'extérieur de l'île, je crois que l'inscription du site d'Anticosti sur le site, comme site du patrimoine mondial, ça a sans doute créé de la confusion. Beaucoup de gens pensent que c'est l'entièreté de l'île qui est inscrite au site du patrimoine mondial. Puis là, on vient mélanger des aires protégées au travers de tout ça. Je peux comprendre que ça peut devenir mélangeant. Avec une carte sous les yeux, tout devient plus clair. Donc, le site du patrimoine mondial, essentiellement, c'est la rivière Voreale, la rivière Jupiter, et tout le tour de l'île, à l'exclusion, bien sûr, du village de Port-Meunier. Donc, qu'est-ce qui permet l'inscription au site? Il faut que ça soit sur protégé. Il faut que ça soit protégé par une aire protégée, justement. Puis, bon, au Québec, on a différents choix, différents statuts possibles. Le parc national, bien sûr, qui est là depuis 2001. Les réserves écologiques qui sont à deux endroits là, sur l'île, donc à Pointe-Heath, complètement à l'est de l'île, donc peu accessible aux personnes. Et de toute façon, une réserve écologique, c'est notre niveau de protection le plus élevé. On ne peut pas y accéder sans autorisation, et ces autorisations-là sont attribuées par le ministère de l'Environnement uniquement dans les buts de recherche, des buts scientifiques. Il faut que ça soit vraiment pour une plus-value, en fait. Donc, il y a également une autre réserve écologique située sur la rive sud de l'île, la réserve écologique du Grand Lac Salé. Et pour relier tout ce système qui existait déjà pour permettre l'inscription au site du patrimoine mondial, on a créé la réserve de biodiversité d'Anticosti. Donc, c'est là que mon rôle est venu en scène, justement, pour gérer cette grande aire protégée-là.
Ça a le mérite d'être très clair. Merci pour l'explication radiophonique pour les gens qui nous écoutent. Le lien le lien entre ton travail et l'île est évident, mais le lien entre Jérémy et l'île est moins évident pour les gens, mais tu as des antécédents qui remontent quand même assez loin là, avec l'île.
Effectivement, j'ai eu la chance de faire ma maîtrise sur Anticosti, plus précisément avec l'ancienne chaire de recherche de l'Université Laval. Mon objectif de recherche, mes questions de recherche, c'était surtout sur la génétique de population de cerfs de l'île d'Anticosti. Donc, comme on le sait, le cerf a été introduit ici il y a plusieurs années. Oui. Puis, on observe également des changements morphologiques au niveau de la population. Donc, est-ce que ça faisait assez longtemps que le cerf était isolé sur l'île pour s'être différencié génétiquement? Et si c'était le cas, quelles étaient les causes derrière tout ça? Donc, mes questions de recherche là, étaient axées là-dessus.
C'est passionnant. Et la conclusion, sans passer le document de ta recherche, mais est-ce qu'effectivement, morphologiquement parlant, il y a des changements évidents chez nos cerfs? Et est-ce que c'est dû à, justement, un facteur particulier de l'île?
Oui, bien, en fait, génétiquement, les cerfs ici sont différents du continent, de la population source qui vient de Montmagny et de l'Illet, dans ce coin-là. Donc, j'avais accès à la génétique, à de la chair de cerfs récoltés là-bas, pour aller chercher au niveau de l'ADN, voir c'était quoi les marqueurs qui permettaient de bien différencier. Et donc, on avait là, un succès là, de 100%. Donc, je prends un steak du continent, un steak de chevreuil du continent, puis un steak d'ici. On regarde au niveau de ces marqueurs-là qui ont été identifiés, puis on est capable de distinguer là, de manière très claire et efficace les serres d'Anticosti. La différence n'était pas d'une grande amplitude, donc on ne parle pas de sous-espèces, mais c'est assez distinctif pour permettre de dire qu'ils sont génétiquement distincts. Et oui, il y a eu des impacts au niveau de la morphologie, donc leur plus petite taille, beaucoup qui est dû à leur alimentation. On le sait, lorsqu'on observe des serres en exclos, en plus faible densité, quand ils ont accès à de la bonne nourriture, ils vont reprendre une certaine masse. Mais malgré ça, il y a des impacts physiques là, qui sont dus justement à cette différence de génétique.
Une forme de sous-alimentation? Ils ne mangent pas suffisamment pour garder la même taille que leurs ancêtres venant de l'îlet avaient, peut-être?
Oui, bien ça, c'est ce qu'on appelle de la plasticité phénotypique. Donc, il y a de l'acclimatation. Donc, lorsqu'un animal est soumis là, à des conditions des conditions difficiles, c'est le mot que je cherchais, que ce soit justement une plus faible diète, là, accès à une diète de faible qualité, mm-hmm. Ben forcément, ça fait un animal moins costaud et ils vont devoir justement s'adapter à cette faible diète. Puis ça, il y a eu plusieurs études là, qui ont documenté justement cette différence morphologique.
Au fil du temps à se reproduire, ben là, ça a fini par changer un peu le code de l'animal, là, finalement.
Ben ceux qui... C'est la théorie de l'évolution. Donc, ceux qui sont plus adaptés, ceux qui ont justement eu des avantages au niveau digestif pour être capable de bien digérer une nourriture de plus faible qualité, ben ils vont être en meilleure condition. Lorsque ça va être le temps de la reproduction, ils seront plus compétitifs et vont pouvoir davantage se reproduire et transmettre potentiellement cet avantage-là à leur progéniture.
Jérémy, vous instaurez donc un nouvel exclos à Lille. Qu'en est-il et où va-t-il se situer?
Oui, donc cet exclos vient marquer le début là, de travaux importants qu'on veut faire dans la réserve de biodiversité. Dans le plan de conservation de la réserve de biodiversité, on a plusieurs objectifs. Et l'un de ceux-ci, c'est le maintien et la restauration de l'intégrité des écosystèmes. Donc, lorsqu'un écosystème qui est dégradé, par exemple la sapinière à bouleau blanc, dû à l'impact du broutement intensif des serres, ça a été largement documenté. Il y a eu plusieurs exclos dans le passé, même encore qui sont présents encore sur le territoire, pour restaurer cet habitat et le remettre disponible aux serres. Donc, enlever les clôtures de l'exclos. Et on parle quand même d'une bonne superficie. Tout ça pour maintenir notre population de serres en santé. Donc, l'objectif de l'exclos qu'on veut construire, c'est plutôt de maintenir l'intégrité de l'écosystème, mais de manière permanente. Donc, de maintenir la clôture de manière permanente. Bien sûr, on ne parle pas d'une superficie aussi grande que ceux qu'on retrouve sur les territoires pour plusieurs raisons. Un, c'est pas donné, construire un exclos. Puis, ça demande un bon effort pour le gérer. Il faut s'assurer à chaque année qu'il n'y ait pas d'arbres qui tombent, qui endommagent la clôture, permettant ainsi à des serres de rentrer à l'intérieur, ce qui viendrait défaire tout ce travail. Et aussi, tout chasseur qui a été dans un exclos le sait, c'est pas facile. Vider un exclos afin qu'il n'y ait aucun cerf à l'intérieur, c'est très difficile. Donc, plus la superficie sera petite et plus facile ce sera de s'assurer qu'il n'y a pas de cerf à l'intérieur. Donc, c'est ce type d'exclos-là qu'on vise. Bien sûr, on va être un peu en apprentissage lors de cette construction-là, bien qu'on ait eu plusieurs exemples par le passé qui nous vont nous permettre justement de nous éclairer pour nous assurer un bon début. Donc, l'exclos sera construit sur le chemin de la baie Sainte-Claire, donc accessible du chemin, très visible pour les résidents et les visiteurs. On veut d'ailleurs construire un petit stationnement et un accès, pas pour les serres, bien entendu, ouais. Mais pour les visiteurs, pour permettre de rentrer à l'intérieur de cet exclos-là. Donc, on parle d'une superficie d'1,5 à 2 hectares maximum.
OK. Et ça, donc, on comprend, dans ce cas-ci, les serres ne sont pas, les chevreuils ne sont pas admis à l'intérieur de cet exclos-là. Les gens qui iraient, c'est pour le bénéfice de pouvoir constater ce qu'est l'environnement normal si nos chevreuils ne passent pas par là, finalement.
Exactement. Donc, il y a déjà un exclos pas très loin, l'exclos de la baie Sainte-Claire, qui fait un hectare précisément, vraiment très carré, qui illustre justement la régénération de sa pinière. Il manque quelques espèces qui sont associées là, à ce milieu-là et qu'on voudrait justement offrir un nouveau départ, une nouvelle chance pour un autre endroit dans la réserve de biodiversité pour exposer ces plantes-là associées à la sapinière à bouleau blanc. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Je vous parle de cet écosystème-là, mais il y en a d'autres qui valent la peine d'être protégés à l'échelle là, de la réserve de biodiversité. Donc, on planifie ultérieurement en construire d'autres aussi pour protéger des espèces qui sont soit à statut ou qui sont tout simplement devenues rares à l'échelle du paysage de l'île. Donc, on peut y voir une certaine forme de zoo botanique, donc oui. Conserver de manière permanente cette génétique-là au niveau des plantes d'Anticosti.
C'est intéressant ce que tu racontes parce que les plantes à statut, ça peut être un peu à travers le Québec, mais ici, il y a des plantes qui ont leur propre statut dans le fond parce que c'est spécifique à l'île, le danger qu'elles encourent, c'est ça?
Oui, c'est ça. On retrouve donc des plantes à statut au point de vue légal, mais il y a des plantes à l'échelle du paysage d'Anticosti qui sont devenues rares, mais pareil, on parlait du sapin baumier. Évidemment, le sapin baumier, on se promène sur le continent puis il est loin d'être menacé. On n'en manque pas, mais à l'échelle du paysage d'Anticosti, ben c'est autre chose. Là. Ça se fait remplacer progressivement par la pincière blanche, donc l'épinette blanche. Puis la solution qui a été trouvée par le passé notamment, c'est d'effectuer la plantation de sapins. D'Anticosti, ben on n'a pas de pépinière à sapin, donc on apporte du sapin du continent. Donc, point de vue génétique, justement, avec mon background, de ma maîtrise, ben moi, je suis peut-être un peu plus sensible pour cette...
Parce que là, on modifie la nature même intrinsèque de cet arbre-là à l'île.
Oui, exact. Donc, moi, je veux maintenir la diversité génétique aussi au niveau des plantes, donc garder les sapins d'Anticosti et toutes les autres espèces, donc d'essayer de conserver ces plantes-là que l'on retrouve ici plutôt que de les apporter du continent.
J'ai envie de te poser une question qui n'est pas politique, mais c'est parce que tu es quotidiennement dans cette vie-là. Le rapport entre le ministère et l'île, il y a une importance parce que là, tu en fais la démonstration avec l'exclos que vous voulez installer, mais est-ce qu'on a une bonne compréhension de ce qu'est l'île, de ses opportunités, de ses dangers au niveau botanique, par exemple, au niveau de la biologie? Est-ce qu'on comprend bien l'île quand on est dans les bureaux à Québec, disons?
C'est une bonne question. Lorsqu'on reste uniquement dans les bureaux à Québec, il y a énormément de littérature sur laquelle on peut s'appuyer pour déjà nous donner une bonne tête. Anticosti était très bien étudié, notamment sur tout ce qui est de la compétition, la menace que le cerf pose envers la végétation. Cependant, moi, je suis ici en poste depuis l'été 2023, en fait, et j'ai effectué plusieurs inventaires avec des spécialistes du domaine, des collègues du ministère sur toutes sortes d'aspects. On parle beaucoup de plantes, mais également au niveau des oiseaux de rivage, des limicoles, des insectes également. Donc, on est là sur le terrain pour en apprendre davantage sur la situation actuelle. Donc, on a plusieurs données qui viennent du passé. Est-ce que ces espèces sont encore présentes? Est-ce qu'il y a des changements? Puis bien sûr, on ne cesse d'être étonné par la richesse que nous cache Anticosti. C'est une île qui est tellement grande, mais forcément, on ne serait-ce que s'intéresser aux mousses, ben on aurait plein de choses à apprendre qu'on ne connaît pas. Il n'y a pas eu énormément d'experts sur les mousses qui sont venus ici. Donc, les champignons, on peut dire la même chose également. Donc, il reste encore, évidemment, beaucoup de travail à faire et c'est pour ça qu'on assure une présence sur le territoire.
Il y a une sous-question qui me vient à l'esprit comme ça. Il faut comprendre, mesdames et messieurs, que je pose des questions à Jérémy qu'on n'a pas plantées, là. C'est vraiment des réactions de ma part. Alors, Jérémy, si tu n'as pas tout à fait la réponse, c'est correct. Si tu as la réponse, c'est aussi bien. Quand on crée ces exclos-là, puis qu'on protège ou régénère, selon le type d'exclos qu'on a, l'environnement, est-ce qu'on se voit réapproprier ces lieux-là par des oiseaux ou d'autres types d'animaux aussi?
C'est une bonne question. Justement, on veut en assurer le suivi dans les prochaines années. Donc, on s'attend à avoir une réponse au niveau botanique, assez rapidement. C'est ce que les autres exclos nous ont montré. Ça vient, le changement, on l'observe rapidement. Et nous, on veut le documenter de manière plus scientifique, si je puis dire, outre que de regarder avec simplement l'œil. Après, pour les impacts au niveau de, d'autres espèces animales notamment, ben, dépendamment du groupe d'animal, ça va prendre une plus grande superficie. On peut penser aux insectes que là, bon, 2 hectares pourraient être suffisants pour certaines d'entre elles, mais après, pour avoir un impact majeur sur des oiseaux, par exemple, c'est peut-être un peu petit. Mais après, je dois dire que j'ai pas vu nécessairement de grandes études qui ont montré, ben voici pour la taille de l'exclos idéal, ouais. Si on va avoir un impact sur telle espèce d'oiseau, c'est quand même, on est quand même très pointu là, dans la science là, pour ce savoir.
On ne parle pas de Yellowstone avec la réintroduction du loup et ses impacts positifs. Là, on est sur un territoire pas mal plus petit.
Oui.
Vous commencez quand les travaux pour l'exclos?
Les travaux sont prévus pour le mois d'août. On est en attente là, de certaines autorisations aussi sur le territoire, parce qu'on est en territoire public. Le ministère de l'Environnement doit s'assurer avec d'autres ministères également là, d'avoir ces autorisations-là pour procéder aux travaux, puisque ça sera également une infrastructure qui sera là de manière permanente.
Vous revenez d'un long week-end de 4 jours de formation avec de nouveaux guides de la Société du patrimoine mondial Anticosti, mais aussi de la CEPAC. Si vous nous parliez de cette expérience de 4 jours à travers l'île.
Oui, ça a été une très belle expérience. Ce n'était pas nécessairement la première fois que je venais visiter l'ensemble du territoire avec ces acteurs-là, mais c'est une activité qui est voulue être reproduite à chaque année, surtout pour les nouveaux employés, les nouveaux guides interprètes qui n'ont jamais mis les pieds sur l'île. Donc, c'est important de leur transmettre des connaissances sur la géologie, la paléontologie, donc qui étaient des capsules données par Pascal Daou de la Société. Mm-hmm. Il y avait également des capsules très intéressantes sur l'histoire données par Sonia Michaud, aussi de la société. Et moi, je venais donner des informations justement sur tout ce qui touchait ben, les aires protégées, mais la biodiversité, la biologie de manière générale. Donc, que ce soit sur le sentier des échouries à Chicotte, de renseigner un peu sur les différences entre le phoque gris et le phoque commun qu'on peut y observer, les tourbières de l'île, faire la différence entre les différents types de tourbières, les principales espèces qu'on peut y retrouver, parler des exclos, justement, de toute la dynamique serre contre le sapin, la sapinière à bouleau blanche, tout ça. Donc, c'est plusieurs informations, tant au niveau historique, géologique et biologique, qui sont à aller chercher pour les nouveaux guides interprètes de la CEPAC également et de la Société du patrimoine mondial.
Ils sont bien chanceux d'avoir eu toute cette formation-là. Puis en même temps, c'est beaucoup d'informations à colliger puis à garder en tête pour les nouveaux venus ici. Et vous avez eu un temps absolument superbe pour ces 4 jours-là aussi.
Oui, bien, le soleil n'était point au rendez-vous, ouais, mais le soleil était dans nos cœurs quand même. On a gardé le sourire durant ces quelques journée-là. Bon, heureusement, il n'y avait pas trop de brouillard, donc ça nous a permis quand même, malgré tout, de voir les beaux paysages là, d'Anticosti. Je me rappelle en 2024, lors de cette formation-là, on s'est dirigé à Baie-de-la-Tour, il y avait une nappe de brouillard épaisse, on voyait même pas la mer, là, donc c'est au moins là, il n'y avait pas le soleil, mais on était en mesure de voir le beau paysage avec les fameuses strates et les belles tours, justement, qu'on retrouve dans le parc national.
Ça fait des envieux, y compris votre serviteur ici présent. Jérémy Fowler, merci beaucoup pour l'entretien. Vraiment, merci bien.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
Nous recevions aujourd'hui Jérémy Fowler, biologiste en environnement, lutte contre les changements climatiques, faune et parcs. Cette entrevue a été réalisée grâce à l'initiative du journalisme local financée par le gouvernement du Canada.